RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Salut à tous, bienvenue dans l'Intégral Sport sur RMC. On est ensemble pendant une heure jusqu'à 19h. Après, ce sera l'after tour avec toute l'équipe autour de Pierre-Yves Leroux. On a une heure à passer ensemble avec Stephen Brun qui est en veille de vacances. Donc là, Steve, il est bien.
Salut Flora, salut à tous. Écoute, je suis très bien. Je commençais peut-être à m'endormir. Ouais. Et puis, il y a l'annonce de LeBron James qui m'a réveillé. Voilà.
Petite info sur le gong comme ça, juste exactement. Avant d'aller à l'antenne, on va en parler de LeBron James qui va s'engager avec les Sixers de Philadelphie, c'est l'info aussi du jour. On va revenir aussi dans quelques instants avec Jérôme Pinault sur cette 19e étape du Tour de France remportée demain de mètre par Tadej Pogacar devant Lenny Martinez. Il y aura une large page rugby aussi avec deux invités. Romane Ménager, désormais ancienne internationale française, nous parlera de cette décision difficile d'arrêter sa carrière à 29 ans. On parlera top 14 aussi avec Steve Blanc-Mapaz, troisième ligne de Vannes, promu cette saison et plein d'ambition. Et puis on vous emmènera à Albi en fin d'émission pour aller championnat de France d'athlétisme qui ont démarré aujourd'hui. Mais d'abord, donc, la 19e étape de ce Tour de France s'est terminée il y a une vingtaine de minutes maintenant sur la victoire de Tadej Pogacar. Le débrief complet, il y a beaucoup de choses à dire avec toutes les réactions. C'est à 19h dans l'After Tour avec Pierre-Yves Leroux et toute l'équipe. Et en attendant, on a la chance d'avoir Jérôme Pinault en exclusivité avec nous dans l'Intégral Sport. Salut Jérôme.
Salut Jérôme.
Salut Flora, salut Steve.
Je pense que là, on a dû vivre des émotions aussi dans le bus d'RMC.
On est rincés dans le bus aussi.
Quelle étape encore aujourd'hui conclue par cette énorme victoire de Tadej Pogacar, une nouvelle fois plus fort que tout le monde, et notamment que Lenny Martinez.
RMC, la flamme rouge.
Ils sont trois, ils passent juste sous cette banderole, cette flamme rouge. Il y a Tadej Pogacar, le maillot jaune. Il y a Richard Carapaz, le vainqueur hier. Et il y a un Français, Lenny Martinez. Alors que Tadej Pogacar en place une nouvelle attaque de Tadej Pogacar. Richard Carapaz et Lenny Martinez, en bons grimpeurs qu'ils sont, essayent de s'accrocher. Mais il y a un mètre, il y a deux mètres, ça y est, il est parti. Il se retourne et il va sans doute mettre sa double attaque, le double kick pour Tadej Pogacar. Lenny Martinez derrière est parti pour essayer d'aller chercher la deuxième place, ce qui va le faire.
Ouais, c'est
Tadej Pogacar qui s'impose, qui lève les bras, maillot jaune, Lenny Martinez, français, deuxième. Malheureusement, il n'y aura pas de victoire. Il est déçu, il tape sur son guidon. Ça s'est joué à peu de choses. Richard Carapaz, troisième, prend le maillot de meilleur grimpeur avec cette place.
Ouais, Jérôme, on a presque un peu de déception. On va en parler évidemment de Lenny Martinez, mais que dire aujourd'hui de Tadej Pogacar qu'on n'a pas déjà dit finalement. Il est trop fort, il est au-dessus de tout le monde, et on va rappeler quand même qu'il a repris 3 minutes 30 aux trois hommes qui étaient à l'avant de la course. Hein.
Ouais, tu l'as dit Flora, il est intouchable ce coureur. Quand il a décidé de gagner, bien il gagne, il avait envie de gagner ici, dans la vraie montée de l'Alpe d'Huez. Ce sera pas le cas demain. Aujourd'hui, c'était les 21 lacets mythiques où tous les grands s'imposent. Bah, Tadej Pogacar, comme tu l'as dit, il a profité d'un travail d'équipe, même si elle est un peu diminuée, son équipe, ils ont bien roulé toute la journée. On a vite compris qu'il essaierait de jouer l'étape. Maintenant, devant, ça s'est pas très bien entendu parce que je pense qu'ils peuvent nourrir quelques regrets devant quand même, avec Lenny Martinez qui a un peu joué un peu le bluff. Mais bon, Tadej Pogacar est intouchable quand on fait deux derrière lui. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On doit s'incliner. Il est impressionnant.
C'est inhumain ce qu'on a vu de la part de Tadej Pogacar. Ce matin, je disais un papier là chez nos confrères de l'équipe que le record de la montée par un cycliste amateur sans avoir fait les 19 étapes avant.
Bien sûr, juste avoir fait la montée.
Hein. Le gamin, il avait fait 35-28. Et ben, je crois qu'il a fait 35-24. Tadej Pogacar sur la montée de l'Alpe d'Huez. C'est inhumain. Les mecs, Carapaz, à un moment donné, il sent qu'il est là derrière. Et ben, les trois regardent en disant mais c'est pas possible. En fait, comment il nous a repris autant de temps que ça? Il faut que tu m'expliques, Jérôme. Lenny Martinez, on l'a vu en colère en terminant deuxième. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux, Lenny Martinez?
Attaquer avant, peut-être.
Attaquer avant, pas forcément, mais surtout bien s'entendre sur les 6, 7, 8 premiers kilomètres de cette ascension. Ils se sont beaucoup regardés, les trois devant.
J'ai l'impression que Carapaz, lui, avait envie de s'entendre. Parce que combien de fois il s'est arrêté, il s'est mis derrière pour dire
allez-y,
roulez.
Il a demandé à Lenny de prendre des relais. Ouais,
Lenny a joué bluff très tôt. Il a fait semblant d'être dans la difficulté. Et à se regarder, à se scruter, à se jouer la victoire d'étape si loin du sommet sans se préoccuper de l'arrière. Quand à l'arrière, on à un Tadej Pogacar. Forcément, avec ce bruit, avec l'hélicoptère, avec le monde qu'il y avait dans la montée, on n'entend peut-être pas la radio, mais il y a bien eu des moments où ils ont dû entendre que c'était Pogacar derrière, et c'était forcément nécessaire de s'entendre le plus longtemps possible, parce que quand Pogacar est lancé, il reprenait 30 secondes au kilomètre, donc il fallait rouler et s'entendre le plus longtemps possible, parce qu'on le sait, sur le haut de l'Alpe d'Huez, c'est un peu moins dur, et s'il te reste un peu d'énergie, parce que tu t'es bien entendu, au lieu de mettre cacahuète sur cacahuète, sur le haut, t'arrives à t'accrocher. Bon là, ils sont arrivés tous les deux essorés sur le haut, et quand Pogacar les a croqués au kilomètre, quand il a accéléré, c'était injouable.
Ah, c'est ça qui est fou, parce que Lini Martinez, il se fait rattraper par Pogacar. Il arrive à suivre quand même avec le Slovène pendant très longtemps, et c'est la dernière attaque finalement de Pogacar qui lui est fatale. Et d'où la frustration aussi peut-être de Lini Martinez, qui avait l'air d'avoir des bonnes jambes aujourd'hui. Hein.
Ouais, il avait des bonnes jambes. Il a été capable de s'accrocher à Pogacar. Il a répondu à chacune des attaques de Carapaz, chacune des attaques aussi de Sepp Kuss. Mais la dernière attaque de Tadej Pogacar, Steve, il allume toute la ville de Nantes avec l'attaque là, avec les watts qu'il met. Il est impressionnant.
C'est la seule fois où il s'est mis en danseuse d'ailleurs sur le dernier kilomètre.
Ouais, un petit peu en danseuse quand même, histoire de dire que on va relancer. Non, sur cette attaque là, il y a pas un coureur au monde qui est capable de suivre, et encore moins
les motos.
Les motos. Encore les motos, ils sont passés en cinquième. Hein, ils ont passé la cinquième pour pouvoir suivre.
Il y a une nouvelle étape dans les Alpes demain. Est-ce que Pogacar va tenter la passe de deux là dans les Alpes ?
Ah, ça va être compliqué, parce que demain il va avoir quand même besoin d'une grosse équipe et en montagne. Là, il a des soldats.
Franchement, on a l'impression qu'il a besoin de personne, Jérôme. Quand on voit ça.
Ouais, mais demain c'est très difficile.
Jérôme, d'ailleurs, on avait beaucoup fantasmé un peu sur la stratégie d'équipe de l'UAE en disant Pogacar va se mettre au service de Del Toro pour l'emmener. Ouais, au bout d'un moment, il a dit vas-y Mexicain, Chicanos, là, débrouille-toi tout seul, moi je me barre. Hein.
Ouais, non, mais aujourd'hui il avait envie de gagner celle-ci, parce que celle-ci, bah, c'est la vraie montée de l'Alpe d'Huez,
symbolique.
C'est la montée mythique. Maintenant, demain, il va peut-être effectivement reprendre son rôle de super équipier auprès de Del Toro pour essayer de finaliser ce podium avec Del Toro. Maintenant, demain, moi je vois plutôt l'échappée aller au bout, parce que je vois pas comment l'équipe UAE sans Adam Yates, sans Matt Dolty, va pouvoir contrôler le nombre d'échappées et cette étape qui est dantesque, plus de 5400 mètres de dénivelé positif.
Un dernier mot avec toi quand même, Jérôme, sur Paul Sexas. On a vu que quand Isaac Del Toro a placé une accélération, ça a été difficile pour le Français de suivre. Finalement, il perd que quoi, 5-6 secondes, je crois.
4 secondes, sur
le Mexicain. Est-ce qu'on est un peu frustré, mais il n'y avait pas de possibilité pour Paul Sexas d'attaquer à un moment donné Isaac Del Toro quand ils étaient tous les deux ?
Là, s'il avait plus, il l'aurait fait, je pense.
Mais
effectivement, dans ce groupe de contre là, dans le groupe Del Toro, c'est Paul qui a tout fait. Il a que 19 ans.
Il était en tête tout
le
temps.
Il a tout fait. Il a monté l'Alpe d'Huez avec tout le monde dans la roue, et il a épaillé les uns après les autres les coureurs. Sauf que Del Toro était dans l'abri. Il y avait un peu de vent dans la montée aujourd'hui. Cette montée, elle est quand même roulante. On peut profiter du drafting dans une montée comme celle-ci. Et Del Toro en a profité. Mais Del Toro, il a mis une attaque. Certes, à 2 km, Paul n'a pas bougé, mais il a géré comme au plateau de Solaison. Et au final, il vient échouer à 4 secondes. Le verdict tombera demain. Demain, il y a 5 ascensions avec des gros pourcentages. Ça va se faire à l'usure et la montée de Sarenne est difficile. Sur des pourcentages comme cela, Paul, qui est capable de maintenir un rythme très élevé, il n'y a plus la question du drafting puisque les pentes sont beaucoup plus raides. Donc peut-être que Del Toro pourra éventuellement plier demain. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il nous a régalé ce gamin. Oui. Il est en train de faire un Tour de France incroyable. Il tombe sur de 3 très bons coureurs devant lui, mais il donne des promesses incroyables.
Tu sais qui c'est qui nous régale aussi ? C'est Evenepoel, non, Jérôme ?
Et oui.
Il
fait un très très beau dauphin en l'absence, on le rappelle, de Jonas Vingegaard. Il est très régulier, il a fait encore une très belle montée sur cette Alpe d'Huez. Attention tout de même à demain, il y a une longue balade à travers les sommets à plus de 2000. On sait que c'est un peu son point faible, Remco Evenepoel, même s'il apparaît très en forme, il a beaucoup travaillé, mais les enchaînements des sommets à plus de 2000 pour Remco, parfois ça peut être difficile. Maintenant, il a affiché une très très belle performance, il fait, comme tu le dis Stephen, un très très beau dauphin.
Il peut tout se passer encore donc demain, et on sera au rendez-vous sur AMC. Merci beaucoup Jérôme. On te retrouve tout à l'heure à 19h dans l'After Tour avec Pierre-Yves Leroux et toute l'équipe. Une 19e étape, Steve, qui est parti de Gap ce matin, station dont est originaire Cyprien Sarrazin, le skieur français qui compte 5 victoires en Coupe du Monde et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Cyprien.
Bonjour.
Salut Cyprien.
Alors parle-nous déjà un petit peu de ton plaisir d'être sur le Tour de France. Là on entend que tu y es justement sur place. Tu as ouvert l'étape avec une quarantaine d'autres personnes, je crois, ce matin.
Non, c'était hier ça.
Ah.
On a ouvert avec le peloton France Montagne. hier. Et aujourd'hui, non, j'étais dans la voiture d'ASO et on a fait un petit tour au-dessus du dévolu en hélicoptère. Donc on s'est vraiment régalé. Ça, c'était un grand kiff.
Ouais, c'est plus simple d'être dans la voiture que sur le vélo.
Oui. Aujourd'hui, la montée de l'Alpe d'Huez, même si j'aurais bien aimé, elle était plus facile en voiture.
T'es un bon cycliste, toi, Cyprien. C'est un sport que tu montes friand, notamment pour tes prépas.
Ouais, j'en fais beaucoup. On en fait beaucoup, surtout au printemps. Après, je fais plutôt du VTT. Beaucoup de VTT.
T'es un mec des sensations, toi, Cyprien.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Quand on fait du ski de descente, il faut s'entraîner en VTT en descente. On n'a pas trop l'occasion d'avoir de la neige partout.
Alors, il faut que tu nous dises si tu suis un petit peu le cyclisme là. C'est qui ton chouchou sur ce Tour de France?
Bah là, c'est sûr que Paul Sexas, il fait grande impression et il est vraiment solide parce que là, il a encore rien lâché sur Del Toro. Bon, Pogacar est quand même sacrément au-dessus. Ouais. Et Carapaz, il a gagné il y a 2 ans à Super Dévolu. J'étais juste derrière lui dans la voiture avec. Avec Christian quand il a gagné, donc c'était assez incroyable. Et là, il a gagné hier à Orcières, donc je crois qu'il aime bien le coin. Donc je vais dire que mon chouchou, c'est Carapaz.
Ah ouais, c'est vrai qu'il a été élu meilleur combatif du jour encore, hein, qui est bien parti pour être le super combatif de ce Tour. Tu suis tous les ans, toi, le Tour de France. Parle-nous un petit peu de ta passion Tour. On voit qu'il y a un monde fou sur les routes du Tour de France encore une fois cette année. C'est aussi ce qui t'anime, toi?
Ouais, c'est incroyable. C'est tous les jours, tout le temps, tous les kilomètres du Tour, ça c'est assez incroyable. Nous on a l'habitude voilà, d'endroits vraiment où il y a du monde pour nous regarder, mais là c'est vraiment partout. Et j'adore suivre le Tour. Le matin je m'entraîne dans la salle de muscu et les après-midi voilà, on se met sur le canapé et on regarde l'arrivée du Tour. Après les séances, c'est toujours pas mal, c'est toujours une petite récompense.
La petite sieste aussi de temps en temps quand même devant le Tour.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement, comme tout le monde.
Ouais, c'est ça, celle-là, elle est générale, celle-là. Bon, Cyprien, on a aussi envie de te demander, évidemment, comment toi tu vas. On est plus d'un an et demi après ta lourde chute à l'entraînement à Bormio. On a envie de savoir comment tu te sens, quelles sont les sensations.
Eh ben, les sensations sont revenues, là, ça y est, je recommence à faire un peu le... Ouais, de retour sur le VTT, à refaire un peu le... Des petites conneries sur le vélo, donc c'est que ça revient, le feeling revient, tout est là, physiquement je me sens très bien, mentalement aussi, j'ai pris le temps de travailler, j'ai pris le temps de développer certaines capacités que j'avais pas avant, et voilà, de faire une année sabbatique finalement, ça apporte beaucoup de choses. En tant qu'athlète, on n'a jamais trop le temps. Je pense qu'on a le temps, c'est quand on arrête, et là, voilà, j'ai la possibilité de faire ça, j'ai pas encore décidé si j'arrêtais ou pas. On verra bien, mais en tout cas, je me prépare, j'aime m'entraîner et c'est ce que je fais en ce moment. J'y retrouve la forme. Ça, c'est vraiment un kiff de retrouver, de voir que le corps, il a une certaine mémoire, on va dire. Et puis voilà, comme je disais, le travail mental aussi fait que je me sens presque mieux qu'avant. Donc j'ai hâte de voir jusqu'où je peux aller. J'ai toujours le plaisir de faire du ski de descente. Donc ça, c'est cool. Voilà.
Tu parles
pas de blocage.
Tu parles beaucoup chouette. De plaisir, Cyprien, dans tes interventions. Le plaisir de rechausser les skis, le plaisir de refaire du sport. Mais est-ce qu'à un moment donné, le plaisir, la compétition va prendre le dessus sur le plaisir?
Ouais, bah c'est souvent comme ça que ça marche. Quand on a vraiment du plaisir, après on se dit et pourquoi pas aller tester les autres, se tester soi-même aussi. Je m'aperçois que voilà, personnellement, naturellement, quand je prends mon VTT, je fais pas de compétition, mais je me fais toujours un petit peu des défis. Enfin voilà, envie d'aller toujours plus vite. Et là, ça commence à revenir, donc ça va pas tarder en ski à vouloir aller titiller un peu. Un peu les chronos.
Cyprien Sarrazin, 2030, Jeux Olympiques en France, on y croit ou on n'y croit pas?
On est obligé de te poser la question, Cyprien.
Ah ben bah oui, bah je l'accepte volontiers cette question. Pour l'instant, oui, bien sûr, c'est une vision. Ça fait pas mal d'années qu'on commence à en parler. C'est une vision, c'est pas un objectif. C'est plutôt une vision à long terme. C'est la dernière, on va dire que c'est vraiment le bout du bout que je peux voir dans ma carrière. Et j'espère, voilà, avant ça, il faut que je reprenne la compétition cet hiver. Et puis, il y a beaucoup d'étapes avant. Donc, ça ne peut pas être un objectif à proprement parler. Mais par contre, si tout se passe bien, voilà, on va dire que la finalité serait les JO de 2030.
Ouais, t'as ça dans un coin de la tête malgré tout. Justement, tu nous parles de cet hiver. Ça va ressembler à quoi, là, les prochaines semaines pour toi? Est-ce que tu as déjà une date de reprise? Comment va s'organiser ta saison? Est-ce que tu le sais déjà?
Pour l'instant, j'ai planifié jusqu'au début de, enfin au tout début des compétitions, donc c'est-à-dire les aux États-Unis. Ça démarre début décembre. Pour l'instant, là, c'est juste la préparation qui s'est programmée. J'ai mes dates d'entraînement. Je pars en hémisphère sud en septembre pour me préparer au mieux. Toute la prépa est calée. Et ensuite, voilà, je me laisse le choix de la décision de courir ou pas début décembre aux États-Unis. Plus ça avance, plus c'est positif, mais on verra à ce moment-là, ça sera un peu la surprise. Mais voilà, après avoir quel de sûr je reprendrai qu'en descente ou en super G et en super G, mais pas en géant.
D'accord.
Mais dans ma préparation, je vais en mettre beaucoup du géant, donc voilà, je vais reprendre. Un peu retrouver le groupe aussi, ça va me faire du bien. Et puis retrouver des certaines bases que j'ai perdues depuis un an et demi. Il y a encore beaucoup de travail, mais
petit à petit. Petit à petit, tu vas
rechercher. Il a toujours des gros cuisseaux, hein, Cyprien.
Je te fais confiance.
ça commence à revenir. Le physique commence à revenir quand même.
D'où le VTT, voilà aussi pourquoi il y a du VTT dans tout ça. Merci beaucoup, Cyprien, été avec nous. Et bonne chance pour la suite de ta saison. Merci beaucoup.
Super, merci beaucoup.
Il est 18h16, Steve, c'est l'heure de parler basket et de l'info du jour, parce qu'on l'attendait, ça fait quand même des semaines qu'on attend de savoir où LeBron James va-t-il jouer la saison prochaine, alors qu'il a annoncé la fin de son aventure avec les Lakers. Eh bien ça y est, c'est officiel, il va rejoindre les Sixers de Philadelphie. On en avait parlé rapidement un petit peu cette semaine, on savait que les Sixers étaient un petit peu dans les discussions, on parlait du Heat de Miami, de Cleveland aussi, des Warriors pendant un moment, et finalement donc les Sixers, est-ce que tu es surpris, Steve?
Un petit peu surpris. Alors LeBron James l'annonce, déjà la grosse info qui nous donne, c'est qu'à un moment donné, il avait vraiment pensé à arrêter LeBron James, que sa dernière conférence de presse avec les Lakers, il s'était vu jouer son dernier match, et c'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps. Retour dans la conférence S pour LeBron James, lui qu'il a bien connu avec Cleveland et avec Miami. Il rejoint une équipe qui a été très active sur le marché des transferts cet été, parce qu'ils ont accueilli un des meilleurs joueurs des Celtics de Boston qui s'appelle Jalen Brown. C'est sur le papier, cette équipe-là, elle fait peur, parce qu'il y a Joel Embiid, il y a Jalen Brown, il y a Tharise Maxey et il y a Vijay Hachkong qui était troisième chez les meilleurs jeunes cette saison. Sur le papier, elle est effrayante. Maintenant, le papier, parfois, il y a des ratures. Il faudra voir comment LeBron James, qui malgré ses 41 ans, est encore un joueur dominant qui a besoin du ballon. Il faudra voir comment ça va prendre. Il y a une grosse responsabilité sur le coach, mais ça bouleverse beaucoup de choses dans cette conférence Est.
Ça inverse les forces. Tu penses que du coup, maintenant, les Sixers se retrouvent
favoris chez les bookmakers. J'ai aucun doute là-dessus. Je pense que les bookmakers, là, les codes vont pas tarder à tomber. Je pense que les Sixers sont vite remontés. Ça va faire bizarre de voir LeBron James avec ce maillot des Sixers. Maintenant, il va falloir apprendre à partager le ballon. Après, ça reste des grands joueurs qui jouent, qui sont suffisamment intelligents. Mais quand il y a beaucoup de grands joueurs en même temps, il y a souvent des gens qui se sacrifient. Personne peut mettre 25 points.
Alors, tu crois que LeBron, là, il arrive aux Sixers pour se sacrifier sur le banc?
Mais en fait, ce choix des Sixers, alors, il signe un contrat de 2 ans pour 8 millions sur les 2 ans. Donc, c'est 4 millions annuels.
Ce qui n'est pas beaucoup pour LeBron.
C'est le minimum auquel il pouvait prétendre. La deuxième année, c'est une option pour lui, pour savoir s'il veut continuer ou pas. J'ai quand même l'impression que c'est un choix. On n'est pas sur un choix de l'oseille, hein, clairement, mais on est sur un choix pour prendre une cinquième bagouze. Parce qu'il va
avec une cinquième franchise différente.
Exactement. Et c'est un choix qui
une quatrième franchise.
Parce qu'il a 2 bagues avec Miami, une avec Cleveland, avec une avec les Lakers, mais c'est un choix. C'est un petit filou. Je pense que c'est un petit filou, LeBron James, de revenir dans une conférence Est qui est peut-être moins compétitive que la conférence Ouest qu'il a côtoyé, parce que à l'Ouest, maintenant, il y a l'émergence des Spurs de Victor Wembanyama, il y a Oklahoma qui est encore un énorme prétendant, il y a Denver.
Sachant que le champion en titre est à l'Est.
Exactement. Mais à l'Est, il rejoint une équipe qui est quand même surdimensionnée sur le papier. Il vient là-dedans, et peut-être que s'il y a une cinquième bague à prendre, elle est peut-être plus accessible. Je dis pas qu'elle est facile, mais peut-être plus accessible dans cette conférence-là que de l'autre côté. Voilà. Donc, il y a tremblement de terre en NBA. Adam Silver va pouvoir faire son calendrier maintenant, parce que LeBron James, c'est un joueur des Philadelphia Sixers.
Il y a le challenge aussi, évidemment, on l'a dit, d'aller gagner avec une quatrième franchise différente, parce que c'est très peu de joueurs aussi réussissent à le faire, il faut aussi le dire. Mais il y avait aussi les belles histoires qu'il aurait pu avoir avec le retour à Miami ou à Cleveland. T'es un romantique du basket, toi, Steve. Il y en a plein qui attendaient ça aussi pour écrire cette histoire.
Ouais, mais les retours sont souvent compliqués, Flora, parce qu'il a tellement été dominant dans ces franchises-là, parce que c'était au début de sa carrière à Cleveland et à Miami. et que peut-être un retour où il est moins performant va peut-être laisser une mauvaise image de là où il a amené le premier titre de l'histoire à cette franchise chez lui à Cleveland
ou même revenu, à Miami
après être revenu. Donc voilà, écoute, il avait envie peut-être de découvrir une nouvelle franchise, une nouvelle organisation. Philly est une ville très sympathique hein, où il fait plutôt bon vivre, mais c'est une prise de risque pour LeBron James à 41 ans de se donner ce dernier défi là. Ça sera pas l'option numéro 1, ça sera peut-être pas l'option numéro 2, ça sera peut-être l'option numéro 3, ce qu'il a déjà entamé avec les Lakers cette saison parce qu'il jouait avec Luka Doncic et Austin Reeves, donc il faudra, parce qu'il y a pas mal de gloutons, hein, pas mal de Pac-Man qui aiment bien le ballon dans cette équipe des Sixers, et je suis très curieux de voir comment ils vont jouer au basket.
Tu dis prise de risque pour LeBron, est-ce que c'est une prise de risque aussi pour les Sixers? Tu parlais de son âge à LeBron, 41 ans, il a pensé à arrêter. Est-ce que tu penses qu'il a encore effectivement le niveau pour emmener cette franchise-là au titre de champion?
Le niveau, il l'a. Maintenant, c'est pas lui qui va l'emmener. Lui, il va juste accompagner les autres joueurs parce qu'il va falloir laisser la main à la nouvelle génération que sont Tyrese Maxey et Jalen Brown et Joel Embiid à un degré moindre parce que Joel Embiid, on ne sait pas quel niveau et quel état physique il peut avoir sur une saison entière. Il va être là pour accompagner avec sa formidable expérience, son charisme, son leadership. Ça sera pas lui qui va emmener les Sixers au titre de champion NBA, mais si jamais ils y vont, je pense qu'il a encore le niveau. Il était à plus de 20 points de moyenne l'année dernière, il était encore All-Star, mais dans un jeu totalement différent, il aura moins le ballon en main, il faudra qu'il apprenne à jouer sans le ballon aussi, ce qu'il a peu fait dans sa carrière, ce qu'il a commencé à faire la saison dernière, mais ça reste un formidable joueur de basket. Il n'y a aucune inquiétude sur sa santé physique,
son état physique, on sait que
tous les ans c'est 1,5 million hein, pour prendre soin de son corps, donc je pense qu'il est quand même affûté. Il a bien profité de son été, ils ont fait un revival, ils sont partis en vacances avec ses potes de Cleveland avec qui ils étaient champions, ils ont fait le tour un peu de l'Angleterre, de golf, ils sont à la Saint-Tropez et compagnie, ça a dû discuter basket et peut-être le remotiver pour refaire une nouvelle saison.
T'as pas ça toi, 1,5 million pour prendre soin de ton corps tous les ans? Non,
ça se voit pas. Ça se voit pas, non.
C'est toi qui...
J'ai 25 euros moi.
Forcément, c'est pas le même
c'est
budget.
Pas pareil, ouais.
Bon, en tout cas, on va suivre du coup avec intérêt cette nouvelle saison de NBA, encore plus parce qu'évidemment,
ça relance. C'est en octobre, hein.
Ouais, c'est vrai, il faut être patient, mais il nous a mis un petit peu de suspense pour cette nouvelle saison. 18h22 sur RMC, l'Intégral Sport revient tout de suite. On va parler rugby avec Roman Ménager, l'ancienne internationale tricolore française, et Steve Mappaz, le troisième ligne de Vannes. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Sport.
Flora Moussi. Il est 18h27, vous êtes bien dans l'Intégral Sport sur AMC. On est avec Stephen Brun, on vous accompagne jusqu'à 19h. On vous rappelle qu'après ce sera l'after tour avec Pierre-Yves Leroux, toute l'équipe, pour revenir sur la très grosse étape dans les Alpes aujourd'hui avec la victoire de Tadej Pogacar devant Lenny Martinez. Il y aura beaucoup de choses à débriefer, mais avant cela, Pierre Thévenet nous a rejoint parce qu'on va parler rugby. Salut Pierre.
Salut Flora, salut Stephen.
Salut Pierre.
Bonjour à toutes et à tous.
Et on va parler notamment de la difficulté de ce sport et de ses conséquences qui conduisent parfois certains à prendre la lourde décision de tout simplement arrêter. C'est le cas notamment de Roman Ménager, ancienne internationale du 15 de France, qui à 29 ans a pris la décision de prendre sa retraite. Et elle va tout de suite nous expliquer pourquoi. Bonjour Roman.
Bonsoir.
Salut Roman.
Bonjour
Roman.
Merci d'être avec nous. Je le disais la semaine dernière, tu as fait le choix d'annoncer ta retraite alors que tu auras 30 ans ce dimanche, on rappelle quand même.
C'est ça.
Tu vas évidemment nous expliquer pourquoi, mais d'abord, est-ce que ça a été une décision difficile à prendre pour toi?
Oui, forcément, c'était une décision compliquée pour moi. Je me voyais encore faire quelques années, donc très frustrant sur ce point de vue-là et émotionnellement, comme j'ai beaucoup vécu à travers le rugby, c'était un choix vraiment complexe à faire.
Alors, qu'est-ce qui t'a forcé justement à prendre ce choix si difficile?
J'ai fait beaucoup de commotions dans ma carrière et les dernières en date me montraient que j'avais des difficultés à récupérer et que pour le coup, avant je reprenais le rugby en pleine conscience et sereine. Là, c'était plus le cas et même si j'aime profondément ce sport, ma santé était importante et en discutant avec le médical, c'était la meilleure solution à prendre.
Bonsoir Roman, t'as essayé, il me semble, plusieurs fois quand même de revenir. T'as été arrêté une première fois plusieurs mois. T'es revenu lors du tournoi Destination 2025, ce match face à l'Italie où malheureusement tu te refais mal. Ensuite t'es parti avec l'équipe de France à 7. T'as essayé plusieurs fois de changer comme ça. T'as tenté jusqu'au bout de voir où tu pouvais aller.
C'est exactement ça. J'ai été accompagnée tout le long par les staffs sportifs et médicaux pour qu'on essaye de faire une reprise dans les meilleures conditions. On a fait pas mal de tentatives. J'ai passé les paliers de reprise plusieurs fois pour aussi me laisser la chance et voir comment ça se passait quand je prenais le temps de récupérer. Et là, malheureusement, mon cerveau a décidé qu'il me fallait beaucoup plus de temps et peut-être même un arrêt complet pour être pleinement bien.
Comment ça se concrétisait justement au quotidien, ces commotions à répétition dont tu parles? Quels symptômes tu avais? Et est-ce que tu as encore des séquelles d'ailleurs aujourd'hui?
Alors, c'est toujours compliqué à définir parce que c'est des sensations qui sont assez particulières. Globalement, moi, c'était souvent traduit par des maux de tête, une fatigabilité quand même un peu plus importante et une sensation un peu de lourdeur, un peu vaseuse, où j'avais plus du mal du coup à me concentrer. Et ça se traduisait beaucoup, beaucoup par ça.
Est-ce que c'est quelque chose qui est encore méconnu, même si on commence à beaucoup en parler dans le rugby, mais j'avais assisté à une conférence que tu as fait avec Proval, le syndicat des joueurs et des joueuses, autour justement de ce problème des commotions dans le rugby. Est-ce que c'est important de plus en parler, de parler de ces symptômes et des séquelles qui peuvent rester très longtemps?
Alors, je pense que, je dirais pas que c'est méconnu parce qu'on en parle énormément, mais je pense que la gestion est encore particulière de par la particularité aussi de cette blessure. C'est pas quelque chose de factuel, on n'a pas d'imagerie qui montre à quel degré on est impacté et sur quelle durée. Donc du coup, ça complexifie un peu la tâche pour le sportif et pour le staff. Et donc du coup, il faut vraiment, je pense, sensibiliser les staffs et les joueurs, principalement les joueurs, parce que c'est à nous qu'est dédié le rôle de dire comment ça va, les sensations qu'on a. Et c'est, pour l'avoir vécu, très compliqué d'être honnête là-dessus.
Roman, moi, je trouve une décision que c'est une décision très très courageuse, parce que tu mets fin à ta passion et ton métier et t'as préféré choisir la raison. J'imagine que t'as entendu tous ces grands anciens rugbyman qui souffrent de ça, notamment Sébastien Chabal qui a été le dernier à se dire qu'il sera plus de rien. Et j'imagine que ça, tu t'es dit, il est hors de question pour moi que j'aille à ce stade-là. Je préfère arrêter avant, j'imagine.
Oui, bah, complètement. Et puis c'est une blessure qui est très anxiogène parce qu'on sait pas où on va, on sait pas vraiment encore pour l'instant où on met les pieds. Donc je me suis rendu compte que j'avais déjà touché une petite limite et pour ma santé, ma vie future, parce que le rugby dans tous les cas, même si on tire longtemps, ça dure pas si longtemps que ça. Donc je trouvais ça important aussi de faire ce choix en pleine conscience, même s'il était dur. Et pour évoquer aussi le cas d'autres personnalités du monde du rugby qui ont été touchées par ça aussi. C'est toujours compliqué d'en partager et de le décrire. Et c'est souvent un sujet qui peut faire polémique, que c'est encore plus compliqué de s'exprimer vis-à-vis de ça. Et pour le coup, je trouve que c'est toujours courageux d'avoir cet élan d'en parler, d'avoir le courage d'en parler publiquement aussi.
C'est
important,
Roman,
du coup, pour moi.
Oui, bien sûr. On est avec Roman Ménagier, ancienne internationale du 15 de France. Roman, t'as annoncé ta décision la semaine dernière d'arrêter ta carrière, mais elle était prise depuis plusieurs mois. Est-ce que, avec ce temps qui a passé, t'as eu le temps de digérer, d'accepter aussi cette décision et de peut-être aussi trouver déjà un nouveau sens à cette vie qui t'attend?
Complètement. J'avais besoin de ce temps et j'en aurai encore besoin encore un peu parce que je pense que c'est des choses qui sont longues à digérer quand même. Et pour le coup, j'ai été accompagnée et ça a été essentiel un peu aussi dans ce passage un peu et cette transition. Et moi qui suis particulièrement passionnée par le domaine du sport et par le rugby, du coup, je me réoriente en tant que préparatrice physique.
Donc tu vas faire souffrir les filles et les mecs. Non.
Oui, voilà, ça, pour avoir mal souffert quelques années, du coup, c'est à mon tour de prendre l'autre casquette.
Tu vas te venger.
Oui, un petit peu.
T'as été une cadre des Bleus, tout comme ta sœur d'ailleurs Marine, qui a arrêté également l'année dernière. J'imagine que tu suis toujours attentivement les performances de l'équipe de France féminine. Qu'est-ce que t'as pensé de leur saison, leur tournoi, malheureusement à nouveau perdu face aux Anglaises, et qu'est-ce qui manque?
T'es toujours la dernière à avoir battu l'Angleterre, hein, ouais, Romain.
Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui manque selon toi à cette équipe pour passer ce cap?
Je pense qu'il manque pas grand chose. J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien entre les filles, avec le nouveau staff et qu'il y a une bonne dynamique derrière. Après, je pense aussi que le rugby féminin a encore besoin d'évoluer. Et je pense surtout principalement au club et au championnat français, où là, il faut vraiment, je pense, ça va être un peu le vecteur de cette évolution-là. Et pour le coup, ça prendra peut-être un peu de temps, et j'espère pas trop de temps non plus. Mais je pense que ça sera un vrai vecteur de développement.
Ouais, c'est des moyens qui manquent à l'élitude. On a vu que les joueuses ont commencé à en parler, notamment la capitaine des Bleus, Manaï Feleu, lors du tournoi Destination, en disant qu'il fallait que ça avance. Lors de la finale d'élitude, les joueuses de Romania, de l'ASM Romania, ont mis un brassard avec écrit Amatrice dessus pour aussi faire une petite action de revendication. Il faut que ça accélère maintenant, ce développement. Il faut que ça avance un petit peu plus vite.
Clairement, du coup, la Fédé a lancé un peu la professionnalisation, mais ça touche un peu ses limites, je pense. Après, c'est que mon avis. Et je pense que maintenant, ce qui fera vraiment évoluer le rugby féminin, c'est de donner un vrai statut aux joueuses d'élitune. Là, c'est vraiment très amateur. C'est des filles qui sont hyper investies, hyper engagées. Mais avec les conditions d'entraînement qu'on leur propose, on touche un plafond qu'il faut absolument déconstruire et faire évoluer.
On rappelle que les filles de l'équipe de France ont 6 matchs en plus cette année, 3 en septembre où elles vont accueillir la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada, et ensuite elles partiront à l'extérieur pour jouer des matchs également, avant bien sûr le tournoi des Destinations 2027.
Et cette revanche, on l'espère,
cette
enfin
revanche de la revanche,
enfin de la revanche,
la revanche, c'est une revanche, ça fait 18 de suite quand même pour l'Angleterre. Je sais pas,
oui,
si
mais on
ça revanche,
hein. C'est toujours merci une beaucoup Romane d'avoir été avec nous, merci, et puis beaucoup, bon anniversaire, parce que tu auras 30 ans dimanche. C'est pas rien d'avoir 30 ans, effectivement, c'est un vrai cap, et bon anniversaire et bonne chance surtout dans cette nouvelle vie qui s'offre à toi. Merci Romane.
Un grand merci, au revoir.
Non, ciao.
Steve, hier tu m'as impressionné sur tes connaissances rugby. Je l'ai dit à Pierre énorme, tout à l'heure, avant la reprise de la saison de
c'est
4-4.
C'est celui du Moscato Show qui connaît mieux le rugby.
C'est pas du travail, c'est pas le talent, t'inquiète pas.
Du coup, je te mets un petit défi supplémentaire. On va en parler directement avec un acteur de cette future saison du Top 14. C'est Steve Blanc-Mapaz, le troisième ligne de Vannes, qui est avec nous dans l'Intégral Sport. Bonjour Steve.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Steve. Enfin, j'aime bien parler aux mecs qui sont moins costauds que moi.
Oh là là. Il dit ça parce que t'es à distance, Steve. En face à face, je suis pas sûre qu'il dirait ça. Bon, Steve, ça y est, les vacances sont terminées pour toi et tes coéquipiers. C'est l'entraînement qui a repris. Vous êtes en pleine prépa là pour la nouvelle saison.
Oui, c'est ça. On a repris milieu de semaine dernière et c'est reparti. On vient de terminer une semaine.
Il est reparti en prépa là d'ailleurs.
Il y a un bronco qui est parti sur le terrain.
Il y a Coach Pitzer qui a arrêté. Il y a entraînement pour Steve.
Il a entendu ta réflexion. Il s'est dit allez, je veux pas parler avec Steve. Steve et Steve dans la même émission, c'était trop compliqué pour nous. On va peut-être juste rappeler avec toi le temps qu'on récupère Steve, Pierre, que Van est promu cette saison en Top 14 et qui a fait une saison de Pro D2 l'année dernière absolument exceptionnelle.
Ils ont roulé sur la Pro D2. Ils redescendaient, on le rappelle, dans le Top 14. Van qui s'était bien battu pour son maintien, notamment avec le Stade Français jusqu'à la fin de la saison. Ils sont descendus, ils avaient gagné des matchs, contrairement à Montauban l'année dernière qui a eu beaucoup plus de difficultés, et c'était presque préparé de monter pour redescendre et remonter ensuite avec une équipe plus préparée au Top 14. Ils ont largement dominé la Pro D2 cette saison, ils se sont imposés face à Provence Rugby en finale, et ils arrivent dans ce Top 14 avec Steve Blanc-Mapaz et avec des ambitions pour se maintenir cette saison.
On a retrouvé Steve.
He's back.
Steve est là, il n'y a pas de souci. Tu nous disais que tu étais du coup en pleine prépa avec Van.
Oui, c'est ça. Oui, on a repris la semaine dernière, au milieu de semaine, et voilà, on revient de terminer une semaine pleine et intense. Donc, c'est reparti de plus belle.
T'es revenu affûté, Steve, ou pas? Ou t'as galéré un peu sur les tests physiques?
Non, ça va. Il n'y a pas eu de test physique, donc on a eu de la chance. Mais non, ça va. Je me suis entretenu. À mon âge, il faut quand même faire attention de ne pas arriver trop cramé.
C'est
quand
pas
même.
Vieux, 36 ans. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi je dis ça à ton avis? Parce qu'on est tous les deux des 90, on connaît. Steve, comment on aborde justement cette nouvelle saison quand on s'apprête à évoluer dans l'élite du rugby français? Pierre rappelait l'énorme saison que Van a fait la saison dernière en Pro D2. J'imagine que quand on a une saison de Top 14 qui arrive devant soi, c'est pas la même intensité de prépa, non?
Ouais non, évidemment c'est quand même une grosse saison qui nous attend. On a
il a pas envie de parler rugby en fait sur RMC.
C'est dommage parce que ça marche très bien.
On va rappeler juste une chose parce que c'est important de le dire et pourquoi on insiste sur ce côté ascenseur entre la Pro D2 et le Top 14. Steve est là, Steve is back again.
Oui, je suis désolé, excusez-moi, ça coupe.
Il n'y a pas de souci.
C'est la montagne.
Je disais, oui, faut, c'est ça, il n'y a pas trop de réseau ici. je disais, oui, il y a un peu d'appréhension, mais il y a aussi beaucoup de, voilà, je pense qu'on a construit des choses avec cette saison qu'on a fait la saison dernière. On a créé des choses entre nous et je pense que c'est important de pouvoir s'appuyer dessus. Donc, voilà, l'intensité, elle monte au fur et à mesure de la prépa et c'est vrai que le top 14, c'est quand même un très gros championnat. On sait très bien ce qui nous attend, donc voilà, on essaye de mettre tous les ingrédients qu'il faut pour arriver le plus près possible, on va dire, dès le début du championnat.
T'avais connu Van au début de ta carrière en 2017-2018, Steve, et ensuite t'as connu le top 14 aussi avec Grenoble et avec le Loup. Van était monté avant de redescendre. Toi, t'es arrivé l'année dernière en Pro D2 dans cette saison que vous avez surdominée. T'as senti que ce club avait évolué et que maintenant vous aviez une équipe bâtie pour vous maintenir en top 14?
Ouais, clairement, quand je suis revenu la saison dernière, oui, c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux. Il y a quand même un effectif de voilà qui était doublé voire triplé à chaque poste. Il y avait de la qualité dans toutes les lignes et c'était vraiment important. En tout cas, j'ai senti la volonté du club de pas être en difficulté malgré la descente. Et en tout cas, le discours et l'énergie étaient vraiment axés sur une remontée directe. Donc, forcément, ça demande aussi un gros effectif. Et je pense que voilà, d'avoir fait cette saison-là, la saison passée, c'est pas anodin. Donc, c'est aussi parce qu'on avait une grosse qualité.
Steve Blanc-Mapaz, le troisième ligne de Van, est avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC.
Ouais, Steve, Pierre disait, le top 14, tu connais, c'est quoi la grande différence qu'il y a, la plus grande différence qu'il y a entre la Pro D2 et le top 14?
C'est la vitesse de jeu et c'est aussi la moindre erreur que tu fais, le moindre ballon que tu perds ou la faute que tu fais, tu te retrouves dans tes 22 ou alors tu te retrouves dans ton en-but tout simplement parce que ça va très vite et que les ballons sont exploités. Après, la grosse différence aussi, c'est la qualité des joueurs en lui-même où il y a des joueurs qui sont intrinsèquement très très forts, donc ils sont capables de faire des différences sur certaines situations qui sont peut-être bloquées par moment, mais au final les débloquent et après créent des situations favorables pour eux, quoi.
Et Sébastien Thiusbol, le manager de Montauban, nous parlait aussi l'année dernière de la différence d'enchaînement des matchs. En Pro D2, c'est des cycles de 5-6 matchs avant des semaines de repos. En top 14, ça monte jusqu'à 11 matchs parfois consécutifs avant d'avoir la moindre semaine de repos, parce qu'il y a également la Coupe d'Europe, donc le rythme est beaucoup plus compliqué en top 14. Est-ce que quand t'es joueur là, à 36 ans, Steve, il y a une motivation énorme de dire que tu peux réaliser un très grand truc, de maintenir Van l'année prochaine pour cette saison dans l'élite, alors que ça fait très longtemps que les promus n'arrivent plus à se maintenir?
2022-2023 avec Bayern.
C'est un super défi pour, je sais pas si c'est une fin de carrière, mais en tout cas une carrière qui a déjà
bien
avancé.
Mais c'est jeune, 36 ans, Pierre, arrête avec
bien
ça.
Sûr que c'est jeune.
Non, bah évidemment que c'est le défi numéro un, voilà, de maintenir le club. Je sais aussi que ça passe par beaucoup de rigueur et comme vous l'avez dit, c'est un championnat qui est très difficile, notamment sur l'enchaînement des semaines. C'est ce qui est délicat, c'est que voilà, c'est de pas tomber dans une certaine routine et c'est de garder le sourire, mais voilà, c'est toujours trouver des leviers pour maintenir le groupe animé, parce que des fois pour un promu, tu peux aussi enchaîner des périodes délicates avec des défaites qui se suivent, et elle est là la difficulté, donc c'est avec l'expérience, essayer d'amener ça dans le groupe, et puis de maintenir club, ça c'est clair, parce que tout a été mis en œuvre, en tout cas la saison dernière, pour nous, pour qu'on réussisse. Et c'est encore le cas cette saison, voire même plus. Il y a eu un gros recrutement, il y a des super mecs qui nous ont rejoints. Je pense qu'on est tous focus sur maintenir le club. Alors forcément, on va pas dire l'inverse, mais en tout cas, on sent qu'on a... on a peut-être les clés pour réussir plus que les autres années, en tout cas plus que la saison il y a deux ans pour Van.
Steve, on a vu cette saison en top 14 qu'il y a pas mal d'équipes qui sur les matchs à l'extérieur faisaient pas des impasses, mais envoyaient des équipes B pour essayer de gagner à domicile. Vous, le stade de la Rabine, c'est le feu. J'imagine que les points à prendre, ça va être chez vous, non?
Oui, évidemment, forcément, être fort à domicile, mais. Mais c'est vrai qu'il va falloir aussi, il va falloir être capable de batailler aussi à l'extérieur pour pouvoir, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a aussi des fois des matchs qui peuvent tourner selon certains scénarios. Donc il faut, je pense qu'on a l'équipe pour, en tout cas, s'accrocher, donner beaucoup chaque week-end. En tout cas, ce sera, je pense, le leitmotiv. Et puis on peut pas se permettre de lâcher trop facilement des matchs à l'extérieur parce que c'est trop dur psychologiquement de prendre 60 points à l'extérieur et après d'être fort à domicile. Je pense que toutes les semaines se suivent et qu'il faut, il faut garder de l'intensité, que ce soit sur les entraînements et même sur des matchs à l'extérieur.
J'aime bien ce que tu me racontes, Steve. Tu es en train de nous vendre la victoire de Vannes à Toulouse.
Ça, c'est ça. J'irai pas jusque-là.
Non, mais la Rabine, Steve, c'est quand même hyper particulier comme endroit. Nous, même les journalistes, on se fait engueuler par les supporters. Pourquoi? Quand on parle pendant les transformations. C'est le silence radio pendant les transformations, même de l'adversaire.
C'est plus en plus rare, ça. Hein.
Même de l'adversaire. Et si on commente une transformation d'adversaire, les supporters autour de nous se retournent et nous font les cornes comme ça et des fois tapent sur le bureau. C'est une ambiance qui est dingue. Steve, c'est quand même une ambiance qui est assez incroyable, la Rabine.
Ah non, mais c'est la Rabine, c'est la Bretagne, c'est fou. Hein, encore entre la semaine vendredi dernier et ce vendredi, on s'est entraîné à l'extérieur avec des entraînements délocalisés. Et il y a énormément de monde qui vient nous voir, qui nous encourage. La Rabine, ce qui est marrant, c'est que voilà, on se fait engueuler quand on fait du bruit alors que le buteur tape. Mais donc c'est quelque chose en tout cas qu'ils entretiennent, qu'ils aiment garder, qu'ils aiment protéger. Et c'est, je trouve ça hyper beau. Donc voilà, on a la chance d'avoir une ferveur incroyable. Enfin, je l'ai encore vu aussi sur la finale, sur les phases finales, mais notamment aussi sur la finale, ça a été complètement fou. Donc c'est vraiment, ils nous donnent vraiment beaucoup de force. Ils sont hyper bienveillants, hyper gentils avec nous, et en tout cas on essaye de le rendre du mieux possible. Et c'est vrai que la Rabine, si on peut encore une fois matcher fort comme on a pu le faire cette saison en Pro D2, même si on sait très bien que le top 14 c'est un autre championnat, voilà, essayer d'en faire une place forte du championnat, quoi.
Steve, vous avez pas mal de recrues, je crois 13 ou 14 nouveaux joueurs. Vous avez fait un repas d'équipe un peu pour accueillir ces garçons là
Ouais, c'est vrai qu'on a fait deux fois deux entraînements délocalisés, donc on a eu l'opportunité de déjeuner ensemble après. On commence à accueillir les mecs parce qu'il n'y avait pas tout le monde jusqu'à maintenant, donc voilà, c'est arrivé au fur et à mesure. Et voilà, on a de la chance, comme je l'ai dit, d'avoir des super mecs qui nous ont rejoints. Et la difficulté, je dirais, c'est qu'on a perdu aussi de très bons mecs qui étaient tournés vers le collectif, qui étaient tournés vers les autres. Je vais pas tous les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais les Pagatafili, les Cyril Blanchard, les Jules Lebaille. Donc voilà, c'est des mecs qui étaient importants dans le collectif. On les a perdus et aujourd'hui, voilà, le challenge, c'est de créer aussi quelque chose, de continuer à perdurer l'entente qu'il y avait dans ce collectif, mais aussi de remplacer ces mecs-là. Parce qu'il faisait un énorme travail sur tout ce qui était cohésion, quoi. Donc c'était important.
Merci beaucoup, Steve, d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC. Bonne chance du coup pour cette nouvelle saison.
Premier match à Castres.
Merci beaucoup.
Il faut le prendre celui-là, le premier match à Castres.
Merci Steve et bonne saison en top 14. Merci. Avec Van. 18h47 sur RMC, la dernière ligne droite de l'Intégral Sport. C'est dans quelques instants, on va aller à Albi, pas pour parler rugby, Steve, mais pour parler athlétisme avec les championnats de France ce week-end. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. Il est 18h50, vous êtes bien sur RMC dans l'Intégral Sport. Dans quelques instants, place à l'After Tour avec Pierre-Yves Leroux et toute l'équipe. Ils reviendront sur la 19e étape de ce Tour de France remportée par...
À la surprise générale.
Tadej Pogacar, effectivement, qui décidément tue le Tour de France un peu plus chaque jour. Mais avant ça, Steve, on va prendre la direction d'Albi. Tout de suite, où se déroule ce week-end les championnats de France d'athlétisme. On va retrouver Camille Borin. Salut Camille.
Salut Flora, salut Steve, salut à tous.
Alors on parle des championnats de France, mais j'ai l'impression que ce week-end à Albi, tout le monde n'a qu'un seul mot à la bouche, c'est les minima.
Oui, j'avoue que c'est un mot qu'on entend souvent. Là, je suis là depuis quelques heures. Je pense que je l'ai entendu une bonne cinquantaine de fois. Mais en fait, on l'entend souvent ce mot tout simplement parce que du 10 au 16 août, donc très bientôt, il y a les championnats d'Europe à Birmingham en Angleterre. Et c'est un peu la dernière possibilité pour beaucoup d'athlètes de se qualifier pour ces championnats d'Europe. Alors, on parle de minima. Il y a une petite subtilité cette année. C'est qu'il y a des minima A et des minima B. Je vais essayer de vous la faire très simple parce que ça fait très mal à la tête.
Steve, il a besoin là, que ce soit simple.
Alors, les minima A, c'est une perf qu'il faut faire dans l'année. Voilà, par exemple, je vais prendre l'exemple de la perche parce que je pense que ça parle un peu à tout le monde. Il faut faire 5m82 une fois, ça suffit de la faire une fois pour avoir son ticket pour les championnats d'Europe. Ça, c'est les minima A. Par contre, on a aussi les minima B qui sont censés être plus faciles à faire, une perf moins difficile. Par exemple, à la perche, c'est 5,70 m. Mais celle-là, par contre, il faut la réaliser deux fois dans les quelques semaines avant l'échéance pour prouver sa régularité. En fait, la Fédé a mis ça en place parce qu'elle ne veut pas seulement avoir des athlètes qui se sont qualifiés, elle veut avoir des athlètes qui vont performer. Et donc, elle a durci un peu les perfs qu'il faut faire pour se qualifier.
Ouais, on voit aussi que c'est un petit peu la densité aussi des athlètes français qui créent ça. Est-ce que justement il y a beaucoup d'athlètes français qui sur ces championnats de France jouent leur place pour les Europes?
Alors il y en a qui jouent leur place. Par exemple Ryan Zézé, il doit faire les minima sur 200. S'il veut faire les Europes, il doit les faire ce week-end parce qu'il ne les a pas encore fait. Donc c'est obligatoire ce week-end. Mais il y a aussi des athlètes qui ont déjà fait les minima. Mais par contre, la Fédé ne prend que 3 athlètes par épreuve. Par exemple, 3 perchistes, 3 hurdlers sur 110 mètres haies, etc. Et il y a des épreuves où il y a plus que 3 athlètes qui ont fait les minima. Par exemple, à la perche, ils sont 6 à avoir fait les minima. Et donc, en fait, tout va se jouer ce week-end parce que les deux premiers des championnats de France seront sûrs d'être qualifiés pour aller au championnat d'Europe. Et les autres, par contre, ça va s'étudier avec leur perf au championnat de France, avec leur place au classement mondial. Il y a plein de données qui vont être prises en compte. Et donc, si on veut absolument aller aux Europes, même si on a fait les minima, il faut absolument être dans les deux premiers ce week-end à Albi.
Ouais, il faut marquer les esprits, Steve. En gros, c'est particulier quand même.
Un week-end à haute pression.
Ouais.
Complètement. Il faut avoir fait les minima et il faut être bon le jour de l'épreuve pour être dans le top 2. Mais on sait qu'ils ont renforcé les minima et les qualifs. Parce qu'on sait que l'athlétisme est dans un trou béant. Hein, on l'a vu au dernier JO, c'est
France,
compliqué en France. Donc on essaie de trouver des athlètes capables de performer lors des grandes compétitions. On espère qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. On a des bons athlètes, mais malheureusement, quand ils arrivent en compétition, il y a parfois meilleur qu'eux dans d'autres nations. Et on espère qu'aux Euros, on aura un peu plus qu'une médaille.
Ouais, ça c'est clair. Un dernier mot avec toi, Camille. Dis-nous tout de ce week-end-là à Albi. Est-ce qu'il y a un point culminant, l'événement qu'il ne faut pas manquer du week-end?
Bah, pour moi, il y a plusieurs événements, hein. Surtout les événements, comme je viens de vous le dire, où il y a les places qui se jouent pour les Europes. Mais bon, moi, je pense quand même que la perche masculine, dimanche à 14h50, où il y a 6 athlètes qui ont fait les minima pour 3 places, dont par exemple Renaud Lavillenie, hein, qui a gagné le titre l'année dernière, un champion de France en 2025, donc à 39 ans quand même, il va bientôt avoir 40 ans, vous l'avez eu hier dans l'Intégral Sport, il est très motivé. Et donc là, ça va être un véritable combat avec Thibaut Collet, avec Baptiste Thierry, qui a passé 5m93 il n'y a pas longtemps au meeting de Paris. Voilà, il y a 6 athlètes pour 3 places. Renaud Lavillenie, s'il veut faire les Europes, le champion olympique de 2012, il faut absolument qu'il soit dans les deux premiers, sinon ce sera un petit peu au bon vouloir de la Fédé et de ses études qu'elle va mettre en place lundi pour une annonce officielle de la section mardi.
Après, quand on est Renaud Lavillenie, peut-être qu'on part avec une petite longueur d'avance pour la Fédé.
Même pas sûr parce qu'il y a quelques années, il n'avait pas été sélectionné pour les championnats du monde en salle alors qu'il avait fait les minima, pareil, parce qu'ils étaient trop nombreux. Et c'était Baptiste Thierry qui était plus jeune, qui avait été sélectionné, et du coup il l'a encore un peu en travers de la gorge.
Comme quoi, le palmarès ne jouera pas forcément
se qualifie uniquement grâce à la performance.
C'est dire un petit peu ce qui va se passer ce week-end à Albi sous tes yeux, Camille. Merci Camille, justement tu nous feras un petit point tout au long du week-end sur les perfs françaises et les qualifications éventuelles pour les championnats d'Europe. Merci Camille.
Merci beaucoup Camille.
Steve, merci à toi.
Merci beaucoup Flora pour cette semaine.
18h55, bonnes vacances.
On se retrouve, la rentrée du Moscato Show, c'est le 24 août.
Déjà?
Eh oui.
Ouais, ça passe vite, en moins d'un mois. Exactement. Un petit mois de vacances pour toi. Moi, je me retrouve dès demain à 18h une nouvelle fois. Et je vais y remplacer un basketteur par un autre basketteur.
Plus grand.
Oui, un peu plus grand. Fred Weiss sera avec moi tout de suite. C'est Pierre-Yves Leroux. L'After Tour sur RMC pour débriefer la 19e étape du Tour de France. Restez bien sur RMC.
RMC. Intégral Sport.